19h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Le gouvernement maintient le cap du sur-mesure en matière de restrictions sanitaires. On saura demain quel sort il réserve à la vingtaine de départements toujours sous surveillance.
L'épidémie continue de jouer avec nos nerfs. Elle recule dans certains départements comme la Moselle, mais en Seine-Saint-Denis ou dans le Pas-de-Calais, elle regagne du terrain.
L'enquête interne à la Fédération française de rugby dédouane le sélectionneur Fabien Galthié qui avait pourtant crevé la bulle sanitaire. Il n'est pas celui qui a importé le virus et contaminé les joueurs du 15 de France.
Emmanuel Macron reconnaît la responsabilité de la France dans l'assassinat de l'avocat Ali Boutmedel pendant la guerre d'Algérie. L'œil de Didier François, spécialiste des questions internationales dans ce journal.
Et puis un auteur de best-seller qui décide de s'auto-publier. Décision étonnante, mais c'est le choix qu'a fait Joël Dicker. Les explications de Nicolas Caro.
La météo, Anissa Haddadi, qui nous annonce une ambiance un peu plus grise et humide demain.
Oui, effectivement, puis surtout une baisse des températures, hein, Julien, demain. On va perdre 2 à 3 degrés dans le sud, jusqu'à 6 degrés en moins sur la moitié nord. Dans le ciel, vous le disiez, c'est gris au nord, plus ensoleillé dans le sud. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
On saura demain soir si le gouvernement donne un tour de vis supplémentaire dans les 20 départements où l'épidémie reste forte. Près de 3600 malades sont actuellement en réanimation et l'on a encore déploré 301 décès hier. Victor Dolande, on va donc prendre la carte de France et à y regarder de plus près. Il y a des territoires qui inquiètent plus que d'autres.
Oui, certains ont vu leur taux d'incidence monter en flèche ces derniers jours. C'est le cas du Pas-de-Calais et de la Seine-Saint-Denis qui dépassent les 400 nouveaux cas pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours, bien au-dessus du seuil d'alerte maximale fixé à 250 par les autorités sanitaires. Et si certains territoires connaissent une progression constante de l'épidémie, notamment le Val-de-Marne, le Var ou Paris, d'autres départements connaissent une légère accalmie, on pense à la Moselle ou aux Alpes-Maritimes. Le confinement le week-end, déjà appliqué à Nice, pourrait peut-être porter ses fruits. Mais comme le rappelle Victoria Colizza, spécialiste en modélisation de maladies infectieuses, qui était l'invitée d'Europe Soir à 18h20, il faut rester très prudent.
On s'attend bien évidemment qu'il soit efficace. La question la plus importante est de combien il est efficace, pour combien de temps ça va durer. Parce qu'on se trouve dans des conditions où, effectivement, chaque mesure va nous aider pour un certain temps, mais on lutte avec un variant britannique qui est plus contagieux de l'autre.
Un variant britannique désormais majoritaire, notamment à Paris. Et puis, dans cette carte de France de l'épidémie, il y a aussi les départements qui n'étaient pas encore placés sous surveillance, mais qui enregistrent un rebond de la circulation du virus. C'est le cas notamment de la Corse du Sud, de l'Orne, de l'Aube, des Deux-Sèvres, des Hautes-Alpes et de la Corrèze. Autant dire que le gouvernement va avoir bien des difficultés avant de prendre des nouvelles mesures demain.
Merci Victor Dolande. Le gouvernement qui envoie tout de même un message, un signal d'espoir. Le retour à une vie plus normale est à l'horizon.
Peut-être dès la mi-avril, c'est ce qu'a expliqué Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, à l'issue des deux conseils, celui de défense sanitaire et celui des ministres. Jean Castex prendra la parole demain soir à 18h. On saura alors si de nouvelles restrictions sanitaires sont au programme.
L'horizon se dégage. En revanche, pour un homme, Fabien Galthié n'est pas le patient zéro qui a contaminé le 15 de France de rugby.
Mystère résolu par l'enquête menée en interne. On rappelle que plusieurs joueurs avaient été testés positifs au Covid, la moitié de l'équipe écartée pour raisons sanitaires et un Français reporté faute de combattants. Les soupçons se sont portés sur Fabien Galthié qui avait crevé la bulle sanitaire, mais finalement, ce n'est pas lui, c'est l'équipe de rugby à 7 qui a fauté, Axel May.
Oui, à travers cette enquête interne, il s'agissait déjà de comprendre comment est entré à Marcoussis le virus. Verdict, c'est par un jeune joueur de l'équipe de France de rugby à 7, équipe qui a servi de partenaire d'entraînement au 15 tricolore. Il avait passé les tests PCR négatifs, mais était en période d'incubation, ce qu'il ignorait évidemment. C'est ensuite un préparateur physique et le sélectionneur, Fabien Galthié, qui ont été touchés jusqu'à générer un cluster. Plus de 15 personnes, joueurs et staff compris. Le professeur Roger Salamon pilote la commission médicale de la Fédération française de rugby et pour lui, le protocole sanitaire a été respecté.
À mon niveau, en regardant tout ce que j'ai regardé, je n'ai trouvé aucun manquement. Et plus directement, ce qu'a fait Fabien Galthié en allant voir son fils n'est absolument pas un manquement au protocole, premièrement, et deuxièmement, n'a aucune relation avec ce qui s'est passé au niveau du cluster, ne serait-ce que pour des raisons évidentes de chronologie, ça je peux l'affirmer.
Vous l'avez entendu, Fabien Galthié, en allant voir son fils, lui-même un rugbyman, n'a pas percé la bulle sanitaire. Cette contamination, c'est la malchance, résume le professeur Salamon. C'est maintenant au ministère des Sports de se prononcer sur ce rapport. Ses conclusions sont attendues demain.
Axel May du service des sports d'Europe 1. L'enquête sur l'agression d'un photographe à présent à Reims. Un homme est mis en examen et écroué ce soir. Il est soupçonné d'avoir violemment agressé le journaliste en plein reportage. C'était vendredi dernier. La victime est toujours hospitalisée dans un état jugé critique.
Et puis Emmanuel Macron vient de reconnaître la responsabilité de la France dans l'assassinat d'Ali Boumendjel. Cet avocat indépendantiste avait été arrêté par les parachutistes au cours de la bataille d'Alger.
Et on en parle donc ce soir avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Ce geste a une forte portée symbolique. C'était l'une des recommandations du rapport sur la guerre d'Algérie remis en janvier au président de la République par l'historien Benjamin Stora.
Alors absolument, l'idée étant que 60 ans après la fin des combats, ce sera le 19 mars, il est enfin temps d'aborder cette période de manière sereine, regarder les choses en face, sans avoir à cacher ni travestir les faits, mais sans devoir non plus se confondre en excuses ou en contrition, qui de toute façon, en matière de recherche historique, sont des notions sans la moindre pertinence, et qui du point de vue politique ont le formidable inconvénient d'être considérés comme toujours trop par les uns, ou jamais assez par les autres. Donc la feuille du président de la République était tout à fait claire à cet égard, puisqu'en commandant ce rapport sur la mémoire à Benjamin Stora, il avait résumé sa démarche en une formule qui était oui à la reconnaissance, mais non à la repentance. Et donc la reconnaissance, eh bien, c'est d'admettre que l'avocat Ali Boumendjel, arrêté par les parachutistes français au plus fort de la bataille d'Alger, a bien été torturé et assassiné le 23 mars 1957, défenestré, sa mort ayant été maquillée en suicide. Ce qui d'ailleurs n'est en rien une révélation. Le général Ossarès, qui menait alors les interrogatoires pour la 10e BP, avait déjà, la brigade parachutiste, avait déjà avoué ce crime dans ses mémoires en 2001, tout comme l'assassinat d'ailleurs du militant communiste français Maurice Audin, qu'Emmanuel Macron avait déjà reconnu en 2018.
Alors la question c'est, est-ce que ce geste pourra relancer enfin le dialogue mémoriel avec l'Algérie?
Bah franchement, rien n'est moins sûr, parce que le pouvoir algérien reste extrêmement réticent à ouvrir un débat historique sincère qui pourrait l'amener à devoir reconnaître la responsabilité du FLN dans le massacre de ses opposants, avec l'exécution en masse des harkis après l'indépendance, mais aussi la liquidation de tous les courants indépendantistes et dissidents, et cela jusque dans ses propres rangs. Alors c'est un sujet beaucoup trop sensible pour que l'armée algérienne s'y risque, même si le président Tebboune semble prêt à faire quelques concessions. Mais en fait, tout ça ne change rien au fait que la France continue d'avancer. L'enjeu de l'apaisement mémoriel, en fait, est valable pour notre société, et cela indépendamment des humeurs algériennes sur le sujet.
Merci mon cher Didier. Didier François, spécialiste des questions internationales, à tous les soirs dans le journal de 19h.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal 19h09. Un enfant sur 10 dont les parents sont séparés vit donc en résidence alternée aujourd'hui. Le chiffre peut paraître faible et pourtant il est en augmentation.
Oui, on rappelle que c'est le fait de passer une semaine chez l'un et une semaine chez l'autre parent séparé. Un chiffre en augmentation, oui Julien, mais pas partout Virginie Riva.
Oui, la résidence alternée, c'est le fait pour des enfants dont les parents sont séparés de vivre la moitié du temps chez chacun d'entre eux. La loi le rend possible depuis 2002 et effectivement, depuis, c'est en augmentation. Ils sont 480 000 aujourd'hui. Alors bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde. Il s'agit surtout de parents avec des diplômes du supérieur, plutôt des cadres. On le comprend, il faut un niveau de vie élevé pour pouvoir accueillir les enfants dans deux logements séparés. Il s'agit majoritairement de parents qui vivent dans l'Ouest et en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est plus rare en région parisienne où les logements sont plus chers et où il n'est pas simple d'en trouver deux à proximité. Enfin, la résidence alternée est une solution qui est surtout privilégiée pour les enfants autour de 10 ans. Avant 4 ans, ils restent principalement chez leur mère. Puis après 10 ans, ça diminue, notamment parce que les enfants sont aussi plus consultés et peuvent choisir d'aller chez l'un ou l'autre de leurs parents.
Merci pour ces explications, Virginie Riva. Du côté de Danone, les fonds d'investissement réclament toujours le départ du PDG, Emmanuel Faber.
Ils avaient déjà obtenu qu'il abandonne les pleins pouvoirs. Emmanuel Faber avait accepté de scinder les fonctions de président et de directeur général, mais l'un des fonds américains dénonce son maintien à la présidence et réclame son départ.
On peut parler d'événements dans le monde de l'édition. Un auteur de best-seller décide de s'éditer lui-même.
On n'est jamais mieux servi que par soi-même, vous connaissez le dicton. C'est peut-être ce qui a trotté dans la tête de Joël Dicker, allez savoir. Il a donc annoncé qu'il quittait son éditeur. Il va tout gérer tout seul, Nicolas Carreau.
Exactement. Joël Dicker doit pourtant sa carrière fulgurante à cet éditeur, Bernard de Fallois. Il est mort en 2018, c'était une légende de l'édition. Et il a pesé de tout son poids à l'époque pour faire connaître Joël Dicker. Résultat, la vérité sur l'affaire Harry Kéber s'est vendue à plus de 3 millions d'exemplaires. C'est gigantesque en 2012. Maintenant, l'écrivain veut voler de ses propres ailes.
Ça a été une décision difficile à prendre. Vous savez combien je suis attaché à cette maison et toute l'histoire qui me lie à elle. Mais j'avais le sentiment depuis quelques années, depuis la disparition de Bernard, qu'il allait falloir tôt ou tard que je prenne un nouveau chemin. Et en même temps, j'ai toujours dit qu'après Bernard, il n'y aurait personne. J'ai donc décidé de créer ma propre maison d'édition.
Il n'en dira pas plus. S'agit-il d'une maison d'édition pour lui seul ou pour publier d'autres auteurs? Il donne rendez-vous à l'automne prochain et la maison d'édition sera lancée le 1er janvier 2022.
Nicolas Caro. Il y a du football même en semaine, Julien. La 28e journée de Ligue 1 vient de démarrer. 5 rencontres ont débuté. On va directement, tout de suite, au Groupama Stadium à Lyon. L'OL reçoit Rennes. Match très important pour les deux équipes, mais pas pour les mêmes raisons, Maxime Chuch.
Effectivement, bonsoir Christophe. Vous le disiez, l'Olympique Lyonnais doit prendre absolument les 3 points de la victoire pour rester dans cette passionnante lutte à 4 en tête de la Ligue 1. Rudy Garcia, l'entraîneur lyonnais, a procédé à 4 changements par rapport à l'équipe qui a fait match nul dimanche à Marseille, avec notamment la titularisation d'Islam Slimani sur le front de l'attaque. Les Lyonnais espèrent bien profiter de la grosse méforme du Stade Rennais, médiocre 9e du championnat de cette Ligue 1 et dont le coach Julien Stéphan a démissionné depuis samedi dernier. Les Rennais qui sont entraînés ce soir provisoirement par Philippe Bizzel. Et après 14 minutes de jeu, il y a toujours 0-0 entre les deux équipes.
Maxime Chuch en direct du Groupama Stadium. 5 autres rencontres débuteront à 21h et notamment Bordeaux-PSG et Lille-Marseille.
Et puis cette dernière minute qui nous vient de Suède, où on apprend par la police que 8 personnes auraient été blessées à l'arme blanche dans ce qui s'apparente être une attaque terroriste. C'est ce qu'on apprend à l'instant de la part de la police suédoise. Merci Christophe, c'était le journal de Christophe Lamarre. 19h13, la météo avec Anissa Haddadi. Anissa qui nous annonce des températures qui commencent à baisser dans une ambiance plus grise et humide, ma chère Anissa.
Fini le printemps sur la moitié nord, en tout cas pour l'instant et jusqu'à samedi matin. On va avoir un temps gris effectivement sur la moitié nord du pays demain, du Poitou jusqu'à l'Alsace. Le passage d'une perturbation apporte sur toutes ces régions des nuages et des averses toute la journée. Sur la moitié sud, nous avons encore de nombreuses entrées maritimes au bord de la Méditerranée, notamment du côté du golfe du Lion et du Languedoc-Roussillon. Ces entrées maritimes vont se dissiper à la mi-journée et dans le sud, nous aurons un ciel partagé entre nuages et éclaircies. C'est-à-dire qu'il va faire beau, mais le ciel sera un petit peu plus laiteux qu'aujourd'hui. L'atmosphère reste tout de même assez sympathique. Et vous le disiez, Julien, les températures, elles baissent à partir de demain et c'est que le début d'une très belle chute. Nous aurons moins 1 degré à Manosque, 0 au Puy-en-Velay, 2 degrés à Clermont-Ferrand le matin, 4 à Besançon et Montpellier, oui. 6 à Nice et Poitiers, 7 à Paris, et puis jusqu'à 9 degrés à Biarritz dans l'après-midi. Seulement 7 à 12 degrés sur le nord et 13 à 18 sur la moitié sud.
Vous dites une très belle chute, vous. Une très belle chute. Pour des températures, moi je dirais plutôt une mauvaise chute, parce qu'il va faire plus froid.
Oui, il va faire plus froid. J'essaye de trouver un peu de positif
vous avez
partout,
raison,
vous le savez, Julien. Hein.
En tout cas, le soleil sera toujours là, a priori, un peu de douceur, mais dans la fraîcheur. Merci Anissa, et à demain, évidemment, à partir de 18h.
Europe 1, écoutez le monde changer.